Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand face-à-face en direct avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, nous reviendrons sur quelques-uns des temps forts de la semaine avec le duel et puis le débat de ce samedi 15 mai autour de la démocratie et des inégalités sociales. Comment comprendre, comment se fait-il que la démocratie, ce régime politique des égaux, puisse produire d'immenses inégalités, d'immenses injustices et des questions qui sont d'une actualité cruciale. Quelle est l'importance respective des facteurs de classe, des facteurs identitaires dans la manière dont se définissent les clivages politiques à travers le monde, les comportements électoraux, nos comportements, mais aussi ceux de nos voisins proches en Europe ou beaucoup plus lointains, au Pakistan et jusqu'en Australie. Comment peut-on en arriver à des situations où certains électeurs peuvent même aller jusqu'à voter contre leurs propres intérêts ? Toutes ces questions sont au cœur d'un livre monumental qui vient de paraître, le titre « Clivage politique et inégalité sociale ». Une vingtaine de chercheurs sous la direction d'Amaury Guettin, Clara Martinez Toledano et de notre camarade Thomas Piketty, 50 démocraties, leur structure sociale, leur structure économique et politique analysée à la loupe depuis 1948 et jusqu'à nos jours. Le résultat est foisonnant, passionnant. Rendez-vous avec l'économiste Thomas Piketty dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Bon, j'essaie une dernière fois. Vous savez ce que sera la première chose que vous ferez mercredi prochain, Gilles ?
Écoutez, je commence à avoir une idée puisque j'ai réservé une terrasse avec des amis, mais bravo. Je crains que ce ne soit qu'un espoir quand je regarde la météo.
Et oui, c'est le grand problème, Natacha.
Je suis à peu près dans la même situation, sauf que je n'ai même pas réservé de terrasse, donc je me ferai passer devant et j'attendrai 3 semaines que ça devienne praticable, je le sens.
Évidemment, mais on va commencer avec un sujet beaucoup plus grave et qui dominait l'actualité cette semaine, la situation au Proche-Orient, évidemment.
Nous avons tué des dizaines de terroristes, y compris des commandants de premier plan. Nous avons bombardé des QG du Hamas et des tours et des bâtiments qui sont utilisés par les organisations terroristes. Nous continuons à attaquer de toutes nos forces. Le Hamas et le djihad islamique ont payé, et je peux vous le dire, ils continueront à payer un prix très lourd pour leur agression.
C'était le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en conférence de presse en début de semaine et il y a quelques jours déjà, il parlait de cet affrontement qui ne cesse pas entre Israéliens et Palestiniens, des tensions qui sont toujours à vif au sein même de nombreuses villes israéliennes, au point même que certains pointent le spectre d'une possible guerre civile, un conflit asymétrique, un conflit dont on pourrait... ou dont on a du mal à voir quelle pourrait en être l'issue. Gilles Finkelstein est un sujet qui se réinvite non seulement évidemment dans l'actualité internationale, mais jusqu'à l'actualité intérieure et à la vie de nos démocraties, et particulièrement en France.
Oui, je crois qu'il faut commencer par distinguer ce qui se passe entre Israël et Gaza de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Donc si on s'en tient, pour commencer, à ce qui se passe entre Israël et Gaza, quand on entend les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'instant, on ne peut avoir un sentiment de déjà-vu, un sentiment de répétition, des roquettes sont envoyées, des représailles sont effectuées. Je crois... pourtant, au-delà de les rechercher les origines, hein, ce qui a été très bien fait pendant toute la semaine par Pierre Aski et par Frédéric Mettezo sur Inter, si on essaie de saisir les nouveautés, parce que dans ce sentiment de déjà-vu, je crois qu'il y a des nouveautés. Il y en a au moins deux. La première, c'est qu'il y a une vulnérabilité, une certaine vulnérabilité israélienne qui est apparue. Ce n'est pas seulement le nombre de morts, c'est la portée des roquettes. Les roquettes qui étaient envoyées depuis Gaza n'étaient pas vers le sud d'Israël, mais allaient jusqu'à bien plus loin, 100 kilomètres au-delà de la frontière de Gaza, et que c'est les défaillances du système antimissile, le fameux dôme de fer qui interceptait ces roquettes. Là, un pourcentage non négligeable d'entre elles atteignait leur cible. D'où ce que l'on entend, les représailles qui sont habituelles dans ces situations, qui sont plus importantes encore parce qu'il y a cette vulnérabilité. Et d'ailleurs, l'objectif du Hamas en envoyant ces roquettes était tout de suite après l'annulation des élections par l'autorité palestinienne, de reprendre le leadership politique. Mais il y avait un autre élément, c'était de sortir, et je crois que c'est ça la deuxième nouveauté, de sortir d'un isolement accentué de la Palestine en général et du Hamas en particulier. On voit depuis déjà de nombreuses années que le soutien des pays arabes au Hamas est de plus en plus réduit au fur et à mesure que le Hamas se rapproche de l'Iran. Ce que l'on a vu plus récemment, c'était que, au-delà de la coopération officieuse et de plus en plus importante avec l'Arabie Saoudite, il y a eu une reconnaissance officielle d'un certain nombre de pays arabes, les Émirats Arabes Unis, le Soudan, le Maroc et quelques autres. Donc, sur cette partie-là du conflit, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Certainement pas tout de suite, parce que ce n'est l'intérêt ni du Hamas, ni du Premier ministre. Mais on sait comment ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'il y aura un pays, sans doute l'Égypte, qui servira de médiateur, il y aura un cessez-le-feu, il y aura des aides pour une reconstruction, il y aura de la corruption. Là, on est dans un tango qui est assez bien chorégraphié. En revanche, l'autre point, ce qui se passe à l'intérieur même d'Israël, entre juifs israéliens et arabes israéliens, là, on rentre dans de la nouveauté.
Natacha Polony.
Pour simplement prolonger ce que disait Gilles, premièrement, il y a le prétexte à cette explosion, notamment la situation à Jérusalem-Est, mais qui devait se régler par la loi, puisqu'en fait, ce sont des familles juives qui ont des titres de propriété dans le quartier de Sheikh Jarrah et qui donc veulent récupérer leur propriété occupée par des Palestiniens. La Cour suprême devait se prononcer, ça c'est le prétexte, qui ensuite donne lieu, et là Gilles l'a tout à fait dit, à une explosion qui vient du fait que le Hamas a besoin de se reconstruire une puissance face à un Mahmoud Abbas qui, lui, ne veut surtout pas que des élections puissent entériner cette domination du Hamas. Et puis, il y a la situation d'Israël au milieu de cela. Et, en fait, la conséquence de l'abandon même de l'idée de deux États. Parce qu'en fait, nous sommes dans la fin de ce mythe des deux États qui aujourd'hui ne sont plus possibles. La solution à deux États, elle était soutenue jusqu'à présent par tous ceux qui considéraient d'abord que les Palestiniens ont droit à leur État et ensuite que c'était à peu près la seule solution aujourd'hui. Elle était même soutenue par les Israéliens qui considéraient que la démographie palestinienne étant ce qu'elle est, ils risquaient la submersion. Or, certains au sein d'Israël considèrent désormais que la donne démographique a changé, que les ultra-orthodoxes israéliens faisant plus d'enfants, la submersion démographique est moins risquée et que donc ça, plus le grignotage continue, il faut bien le dire, de tous les territoires palestiniens par la colonisation. Mmh. Et donc l'imbrication des populations israéliennes et palestiniennes rend totalement impossible cette solution désormais. À ceci près que la solution d'un État binational n'est absolument pas aujourd'hui définie correctement. Et surtout, les affrontements qu'on voit aujourd'hui au sein des villes israéliennes entre juifs et arabes israéliens laissent penser qu'il y a là un risque absolument majeur. Or, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui se dessine, sachant que Gilles le soulignait tout à fait justement.
Oui, justement.
Les pays arabes se sont désengagés. Les États-Unis s'étaient imaginés sous Donald Trump qu'ils allaient pouvoir inventer une solution en dehors des Palestiniens, on voit aujourd'hui qu'on est de nouveau dans une impasse.
Rapidement, Gilles, et j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre ce que vous pensez de l'interdiction des manifestations à Paris en soutien des Palestiniens.
Je rebondis sur ce que disait Natacha à l'instant sur la situation interne à Israël. Et sur, je crois, l'inquiétude très forte que l'on peut avoir, parce qu'on a, on le mesure pas bien d'ici, on a deux communautés qui sont étroitement mêlés, étroitement entremêlés. Au-delà du chiffre, vous avez un peu plus de 20% d'Israéliens qui sont des Arabes israéliens. c'est la réalité sensible, la réalité concrète de ce qui se passe en Israël qui permet de bien saisir à quel point ces réalités sont mêlées. Si vous allez à l'université de Tel Aviv, vous voyez beaucoup d'étudiants et d'étudiantes arabes et beaucoup d'étudiantes voilées. On a parlé beaucoup de la campagne de vaccination.
Oui.
La moitié des pharmaciens, le quart des infirmiers étaient des pharmaciens et des infirmiers arabes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de campagne de vaccination sans les Arabes israéliens. À l'intérieur de la police et même à l'intérieur de l'armée, vous avez des Arabes israéliens qui parlent aussi hébreu, dont la langue est l'hébreu. Et donc, vous avez deux populations qui vivent pas seulement côte à côte, qui vivent ensemble, qui font les courses dans les mêmes magasins, qui travaillent ensemble. Et donc, c'est beaucoup plus nouveau, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dangereux que ce qui se passe d'une certaine manière qui est plus traditionnelle entre Israël et Gaza. J'ajoute en un mot, c'est inquiétant aussi parce que les forces de sécurité sont beaucoup plus désarmées face à ce qui se passe là que face à un conflit traditionnel. Et enfin, c'est inquiétant parce que cette situation ferme la voie à une alternative politique à Benjamin Netanyahou, puisqu'on était au moment même où il y avait la possibilité d'une coalition dans laquelle les Arabes israéliens étaient partie prenante. Le drame de tout ça, c'est que celui qui est à la fois le responsable de beaucoup des frustrations des Arabes israéliens, qui est Benjamin Netanyahou, risque d'être aussi le bénéficiaire de cette crise.
Revenons en France rapidement. Que pensez-vous, Natacha, de l'interdiction des manifestations, interdiction par les autorités, confirmée par le tribunal administratif, ces manifestations de soutien, de solidarité avec les Palestiniens dans différentes villes de France?
Là aussi, on est face à une situation complexe parce qu'il n'y a pas de bonne solution. On a vu en Allemagne comment les manifestations de soutien aux Palestiniens ont dégénéré et ont vu naître des slogans anti-juifs. Donc il y a un antisémitisme en Europe qui s'est réveillé, qui est particulièrement violent. Et on se souvient de 2014 et des cris « mort aux Juifs » dans les rues de Paris à l'occasion de manifestations pro-palestiniennes. C'est-à-dire que le soutien tout à fait légitime à la Palestine fait réémerger cet antisémitisme avec une incapacité à détacher le conflit israélo-palestinien et les problématiques de cette partie du monde de quelque chose de beaucoup plus local et des frustrations qui peuvent naître en France. C'est pour ça que je comprends parfaitement que les autorités interdisent cette manifestation. Mmh. C'est hélas de nature à renforcer encore la frustration. Donc si on se contente d'interdire ces manifestations sans ensuite réfléchir à la façon dont on va pouvoir agir politiquement pour éviter que ça n'approfondisse le problème, je pense qu'on aura tout perdu.
Sur ce sujet, Gilles, avant de passer au sujet suivant.
Écoutez, le droit de manifestation est un droit fondamental. On a le droit de soutenir les Palestiniens et on a le droit de manifester pour exprimer ce soutien. C'est un droit qui est un droit encadré, c'est-à-dire qu'il faut une autorisation et qu'il ne faut pas qu'il y ait de menaces graves de troubles à l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur a estimé que tel était le cas, c'est-à-dire qu'il disposait d'éléments suffisamment probants pour qu'il y ait une interdiction. Il y a eu un recours, il y a eu une décision du tribunal administratif qui confirme cette annulation à Paris, puisque ce n'est pas le cas d'autres villes de province. Donc je ne connais pas tous les éléments dont disposait le ministre de l'Intérieur. En revanche, il y a le précédent de 2014 dans lequel, de la même manière, la manifestation avait été interdite. Il y avait eu un recours, il y avait eu une confirmation par le tribunal. La manifestation interdite avait eu lieu et avait donné lieu au débordement que l'on sait. Mais au-delà de ce précédent qui a 7 ans, il suffit de regarder ce qui s'est passé, Natacha l'a dit, en Allemagne, il suffit de regarder ce qui s'est passé au Danemark, il suffit de regarder ce qui s'est passé aux États-Unis pour mesurer que...
Eh bien, notamment à Chicago et New York.
C'était pas une crainte qu'il y ait des troubles à l'ordre public, c'était une certitude. Et si le gouvernement ne l'avait pas fait, s'il avait autorisé cette manifestation, si les troubles, en dépit des éléments dont il disposait, si des troubles étaient survenus, je crois qu'on lui en aurait fait légitimement le reproche.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le groupe Modem a voté de manière unanime contre cet article 1er pour indiquer que depuis le début, nous avions donné des lignes rouges et nous avions dit clairement ce que nous voulions discuter, ce que nous étions capables d'accepter. Or, nous constatons qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'écoute. C'est le rôle des parlementaires que de faire une loi claire et intelligible et cohérente.
une manière de parler du déconfinement et de l'éventuel retour à la vie normale. Philippe Latombe est député MoDem de Vendée, on vient de l'entendre. C'est lui qui est responsable du groupe MoDem sur la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Et avec lui, les centristes ont voté contre cet article qui crée un pass sanitaire à l'Assemblée, ce qui a conduit le gouvernement à revoir sa copie dans l'urgence avant d'organiser un second vote dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une crise à la fois inédite dans la majorité qui n'aura pas de réelles conséquences, mais qui révèle les tensions grandissantes entre les deux parties, qui révèle aussi des manières différentes d'imaginer l'après, Natacha.
Oui, il y a la dimension politicienne et la dimension de fond. La dimension politicienne, c'est le fait qu'on a un allié du gouvernement, le MoDem, qui est fortement mécontent de la façon dont il est traité, notamment suite à l'abandon de la proportionnelle qui était une promesse d'Emmanuel Macron et dont on comprend bien qu'elle n'engage que ceux qui y ont cru. Et donc, le MoDem a voulu se rappeler au bon souvenir d'un gouvernement qui, à l'Assemblée nationale, n'a plus de majorité absolue et est totalement dépendant de son allié. Donc ça, c'est de la cuisine classique. Le deuxième vote organisé par la République En Marche pour véritablement valider le texte est un grand classique aussi, même si ça nous raconte une fois de plus l'affaiblissement du Parlement dans la Ve République et encore un peu plus sous cette législature. Après, il y a la dimension de fond, et là, on peut s'étonner. C'est-à-dire qu'en effet, tous les partis d'opposition trouvaient que ce pass sanitaire, la poursuite du couvre-feu, était tout à fait contestable.
Oui.
Ils ont donc voté contre cet article 1, notamment le MoDem, qui trouvait que tout cela ne lui convenait pas et qui a finalement voté alors que la seule modification du texte était le fait de passer, enfin de cesser cet état d'urgence allégé, non pas fin octobre, mais fin septembre. On va dire que l'allié est rentré dans le rang, il a voulu se faire entendre. Derrière cela, il y a une véritable réflexion et il aurait pu y avoir à l'Assemblée nationale un véritable débat sur les libertés publiques. Ce n'est encore pas le cas.
Et sur la période de transition, effectivement, qui nous amènera véritablement à la liberté retrouvée. Gilles Finkelstein, comment analysez-vous cette séquence ?
Écoutez, c'est un incident parlementaire qui ne doit rien à la situation sanitaire et tout à la situation politique. Donc je ne crois pas que ça mérite d'en dire davantage. On peut avoir un sentiment de désordre et même de chaos. Malgré tout, si on prend un peu de recul, la situation est quand même meilleure à la fois pour les Français et pour le gouvernement. Hein, ce qui va mieux, ce sont les chiffres, tout bêtement. Les chiffres de la situation sanitaire. Regardez, sur un mois, je n'en donne qu'un, sur l'évolution du nombre de cas, on est passé aux alentours de 40 000 à un peu moins de 20 000, c'est vrai sur la campagne de vaccination. Quand même, aujourd'hui, nous allons atteindre les 20 millions de Français qui ont reçu leur première dose. Et c'est vrai aussi, on l'a moins remarqué, sur le soutien de l'opinion. Il y a une enquête IFOP qui est sortie il y a deux jours. La confiance dans le gouvernement pour mener à bien la campagne de vaccination est au-delà de la majorité absolue, 52%, plus 14 points en un mois. Et la confiance dans le gouvernement pour préparer le déconfinement est à 47%, donc pas loin de la majorité, plus 12 en une semaine. Donc,
ça, c'est inédit.
Ça, c'est inédit depuis, non pas le tout début, mais assez rapidement depuis le début de cette crise. Donc ça va mieux. En revanche, Natacha a raison, il y a des choses qui méritent débat. C'est vrai du pass sanitaire, elle l'a évoqué, qui pose un certain nombre d'interrogations, y compris savoir quel est l'objectif en réalité qui est poursuivi, et surtout quelle va être sa durée. Il y a un autre sujet qui fait débat dans cette actualité, qui est celui, je n'en dis qu'un mot, de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement a annoncé, après l'avoir suspendu, qu'elle était mise en œuvre au 1er juillet. Vous avez eu une tribune qui a rassemblé ce qui est très rare, à la fois Laurent Berger et Philippe Martinez, plus un certain nombre d'associations dans lesquelles était contestée à la fois la dimension sociale, l'injustice de cette réforme. Et depuis lors, il y a aussi une contestation juridique de l'UNEDIC elle-même qui considère que la nouvelle formule du salaire journalier de référence, je ne rentre pas dans le détail, risque d'illégalité. Et donc, quand on est à ce moment-là de la crise, où on est encore dans la crise économique. Quand on sort d'une crise, on en parlera avec Thomas Piketty, où les plus pauvres ont dû s'endetter davantage et les plus riches ont pu épargner davantage, on se demande vraiment ce que le gouvernement est allé faire dans cette galère.
Natacha.
Oui, je pense que, bon, ça, on évoquera toutes ces questions-là tout à l'heure.
Avec Thomas Piketty, mais encore un mot, cette stratégie de sortie.
Encore un mot, cette stratégie de sortie, elle donne l'impression d'être un peu trop indexée sur la perspective de l'élection présidentielle. Et en effet, elle donne l'impression d'être avant tout une façon de tenir jusqu'à la présidentielle par des aides ponctuelles aux entreprises, éviter trop de faillites, en même temps faire baisser les chiffres de contamination. Ça, évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Ouais. Mais qu'il n'y a pas de vision à long terme de, non seulement des inégalités sociales que pointait à juste titre Gilles, mais aussi d'une politique véritable de réindustrialisation, d'investissement. On est là dans quelque chose, une fois de plus, la Ve République est paralysée par la perspective de la présidentielle.
Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les électeurs de gauche, ils en ont marre. Ils en ont marre de cette division. Ils ne la supportent plus. Et ils se réfugient de plus en plus dans l'abstentionnisme parce que nous sommes incapables de nous réunir pour offrir une alternative, encore une fois, à la droite et à l'extrême droite. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que ces trois listes de la gauche francilienne nous amènent à la catastrophe et nous amènent à la défaite. Et c'est donc un cri d'alarme que je pousse. Et ça dépasse Audrey Pulvar.
La gauche face aux enjeux des élections régionales. On vient d'entendre Bertrand Kern, qui est le maire socialiste de Pantin, cette ville de Seine-Saint-Denis. Et il était tête de liste du mouvement mené par Audrey Pulvar en Seine-Saint-Denis, justement, pour les élections régionales. Il a décidé de se retirer de la campagne, apparemment par SMS. Épiphénomène, c'est de bonne guerre, Gilles, rapidement, ou ça dit quelque chose d'un profond malaise à gauche?
Non, ce n'est pas un épiphénomène. Mais ce qui est vérité au régional est une erreur au départemental. Ça veut dire que la gauche est divisée, profondément divisée, à peu près partout aux élections régionales, et qu'elle est unie, assez profondément unie, à peu près partout aux élections départementales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un phénomène que tous les politistes enseignent depuis des décennies, qu'un mode de scrutin produit des effets sur le système politique et sur l'offre politique. En gros, lorsqu'il y a un scrutin proportionnel, eh bien ça pousse les partis chacun à courir sous leur propre couleur. Quand vous avez, comme au régional, quand vous avez un scrutin majoritaire comme au départemental, ça pousse au rassemblement. Donc là, on est dans du classique, mais les élections départementales sont masquées par les élections régionales. Deuxième remarque très rapide, c'est que non seulement les départementales sont masquées par les régionales, alors même qu'il y a des pouvoirs au département qui sont dans la vie concrète des gens, des pouvoirs extrêmement importants, notamment sur toute la partie sociale, ces régionales sont masquées par l'élection présidentielle à venir, dans laquelle beaucoup n'y voient qu'une répétition. Quand on regarde les débats, il y en a très peu, parce que les politiques publiques, c'est-à-dire les compétences de ce que font les régions, sont masquées par la politique. Alors peut-être que c'est parce que les listes ne sont pas encore déposées et que dans le mois qui vient, on va avoir des débats de fond. Mais lorsqu'il y a des débats de fond, je termine par là, eh bien, les politiques publiques sur lesquelles les régions sont incompétentes, c'est-à-dire le transport, c'est-à-dire
les lycées,
c'est-à-dire le développement économique, eh bien, elles sont masquées par les questions sur lesquelles les régions sont incompétentes, c'est-à-dire n'ont pas le droit d'exercer une compétence qui sont les questions de sécurité. La question, c'est est-ce que c'est le prélude de ce que l'on va vivre à l'élection présidentielle.
Natacha, avant d'accueillir notre invité Thomas Piketty.
Rapidement, je souscris à ce que vient de dire Gilles sur la question des compétences des régions et de l'absence totale de débat sur le fond. J'ajoute une chose. Le problème actuel de la gauche est qu'elle est traversée par des clivages qui sont des clivages tout à fait légitimes. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, en Normandie, où l'on voit donc une gauche qui s'oppose d'un côté communiste et insoumis, de l'autre PS et Vert, sur la question du nucléaire dans une région qui est très nucléariser. Et là, on comprend qu'il y a un débat de fond. On aimerait d'ailleurs que ce débat puisse être mené jusqu'au bout. Et puis, il y a d'autres endroits où, évidemment, on peine à voir les différences de fond. Je pense, par exemple, à la région Île-de-France, où l'opposition entre les Verts et les socialistes ne me semble pas majeure, et où on a là des oppositions de stratégie politique, de positionnement pour les présidentielles, c'est-à-dire que la gauche n'arrive toujours pas à sortir de la question de savoir qui aura le leadership et qui évincera les petits camarades pour être en tête pour la présidentielle.
Histoire donc à suivre, il est 12h30 sur France Inter, le grand face-à-face continue avec le débat.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Le débat, démocratie et inégalité sociale. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de questions vertigineuses. Comment se fait-il que la démocratie, le régime des égaux, puisse produire d'immenses inégalités? Question vertigineuse également. Quelle est l'importance des facteurs de classe, des facteurs identitaires dans la manière dont se définissent les clivages politiques, et pas seulement en France, pas seulement dans les démocraties occidentales, mais aussi à ailleurs, comment se définissent les comportements électoraux, puisqu'on arrive à des situations que nous connaissons maintenant bien, où des électeurs peuvent même aller voter jusqu'à contre leurs propres intérêts. Voter contre leurs propres intérêts, c'est comme ça qu'on désignait par exemple ce qu'on appelait les value voters aux États-Unis, ceux qui votaient en fonction de leurs valeurs, de leurs croyances, notamment ceux qui avaient suivi déjà à l'époque George Bush fils. Alors ces questions sont au cœur d'un livre monumental et qui vient de paraître, Clivage politique et inégalité sociale. Une vingtaine de chercheurs sous la direction d'Amaury Guettin, Clara Martinez Toledano, Thomas Piketty, 50 démocraties, 5 continents et donc des pays analysés à travers leur structure sociale, économique, politique depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui. Le résultat est passionnant. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Et bienvenue, économiste, camarade de France Inter, évidemment, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question des inégalités, sur la question aussi de la redistribution, sur la question de la justice sociale. Pourquoi avoir voulu reprendre un sujet d'étude que vous avez mené depuis des années maintenant sur la France, sur les États-Unis, mais en élargissant le spectre à ce point-là, en allant jusqu'au Pakistan, en allant jusqu'en Australie, en allant regarder ce qui se passe en Argentine, au Chili, au Costa Rica, en Colombie, au Mexique, et j'en passe, la liste serait trop longue.
Alors, c'est une aventure collective, ce livre, hein, je voudrais dire. Bon, on est trois à l'avoir co-dirigé, là, Amaury Guettin, Clara Martinez Toledano et à moi, mais il y a des dizaines de chercheurs, Carmen Durer, Alice Sodano, qui nous ont permis de couvrir tous ces pays. Donc, c'est une aventure collective. La nouveauté, c'est quoi? C'est que on a été chercher pour toutes les élections depuis 1948 les fichiers des enquêtes post-électorales. Donc, vous savez, ce sont ces enquêtes, par exemple, comme celle du CVPOF en France, dans lesquelles on demande, après les élections, une semaine, ou quelques jours, ou quelques semaines parfois après les élections, on demande aux gens bon, comment vous avez voté et par ailleurs quel est votre niveau de diplôme, quel est votre niveau de revenu, quel est votre patrimoine. Donc, ouais. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est d'avoir mis ensemble toutes ces enquêtes sur 50 pays, sur 70 ans, pour essayer de comparer de façon systématique, tout simplement, qui vote pour qui.
C'est-à-dire, parce que justement, j'allais vous demander, Thomas Piketty, qui vote pour qui? C'est une question qui est passionnante. On va ouvrir le débat, mais
sur laquelle,
quoi
de commun? En fait, on ne savait pas tant de choses que ça. Enfin, on savait des choses, mais à cette échelle-là, avec autant de pays, sur une période aussi longue, personne jusqu'ici n'avait rassemblé les données permettant simplement d'un point de vue factuel, parce que ce livre, c'est d'abord ça, hein. Après on peut avoir des interprétations différentes sur les résultats qu'on trouve, et nous on propose des pistes d'interprétation, mais on prétend absolument pas avoir épuisé le sujet sur les raisons des évolutions.
Non, enfin, je veux dire tout de suite, hein. Il y a énormément de données, il y a des
c'est d'abord un livre factuel, historique, ou après que chacun peut consulter. J'ajoute qu'il y a une base de données en ligne qui est wpid.world, où ceux qui veulent pas lire le livre
pourront
trouver toutes les données. Vous voulez savoir comment les basses castes, les hautes castes votent en Inde, comment les électeurs votent en fonction de leur religion, y compris en France par exemple.
Oui.
Comment les personnes en fonction de leur diplôme aux États-Unis ont voté démocrate, républicain, au Brésil, au Nigeria. Vous allez en ligne, vous avez la réponse. Il y a énormément de matériaux en ligne et encore plus dans le livre pour ceux qui ont le temps.
C'est c'est passionnant parce qu'il y a le vote musulman dans les démocraties occidentales, par exemple, qu'on peut analyser. Je vais donner la parole dans une seconde à Gilles et Natacha, mais expliquez-nous d'abord très rapidement quoi de commun, malgré tout, entre des systèmes politiques, des pays qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et sur des périodes aussi longues où l'on peut douter que ces démocraties puissent être comparées les unes aux autres, si on songe au Pakistan de Zia-ul-Haq qui était une dictature et à la France des années 80 par exemple.
Alors, il y a des évolutions très différentes, effectivement. En gros, il y a une évolution qu'on retrouve dans l'ensemble des pays occidentaux. Et puis après, en dehors de l'Occident, on a une autre catégorie, je dirais, de dynamique qu'on observe. Pour résumer, dans les démocraties occidentales, on avait entre 1950 et 1980 une structure de vote qu'on qualifie de classiste, au sens où les personnes issues de classes sociales plus défavorisées, qu'on mesure la classe par le revenu, le patrimoine, le diplôme, avaient tendance à voter en moyenne davantage pour le même groupe de partis, disons sociaux-démocrates, socialistes, démocrates, travaillistes au Royaume-Uni, alors que les personnes plus haut placées votaient plutôt sur les partis conservateurs, chrétiens-démocrates, libéraux, républicains, suivant les pays. Et cette structure classiste, dans la période suivante, 1980-2020 et surtout 1990-2020, a éclaté dans différentes directions, à la fois en haut et en bas de l'échelle sociale. C'est-à-dire que, en haut de l'échelle sociale, les plus diplômés et les plus riches, disons, ne votent plus, ont arrêté de voter pour les mêmes partis. C'est-à-dire, en gros, il y a eu ce que j'appelle à un moment dans le livre la gauche brahmane qui a récupéré, oui, disons, le vote des plus diplômés, par opposition à la droite marchande qui conservait, dans une certaine mesure, le vote des élites, des élites économiques. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 1950-1980, où les plus diplômés en France votaient à droite, de même que les plus riches. C'est-à-dire toutes les dimensions du clivage social étaient alignées politiquement, ce qui a cessé d'être le cas. Et on a une même fragmentation au niveau des électorats populaires. Typiquement, aux États-Unis, le Parti démocrate rassemblait entre 1950 et 1980 les suffrages des classes populaires, quelles que soient leurs origines, blanches, noires, latino, alors qu'aujourd'hui, on est dans une situation très clairement où les classes populaires noires et latino continuent de voter fortement pour le Parti démocrate, à 80 à 90%, et ça représente quand même plus de la moitié des classes populaires aux États-Unis. Et par contre, les classes populaires blanches ont nettement basculé sur le Parti républicain quand ils votent, parce qu'il y a aussi un effondrement de la participation politique au sein des classes populaires aux États-Unis. Alors ça, c'est les démocraties occidentales. Mais dans les démocraties non occidentales, on a plutôt un processus contraire, c'est-à-dire où la structure du vote a plutôt tendance à devenir davantage classiste au cours du temps. Et ça, c'est peut-être un peu la bonne nouvelle, je sais pas. En tout cas, ça montre un peu l'intérêt aussi de désoccidentaliser le regard. C'est-à-dire, en Occident, on a l'impression que voilà.
On n'est pas condamné à voir les facteurs identitaires ou religieux l'emporter.
Il n'y a pas de fatalité. Ça dépend des stratégies politiques. Et c'est très frappant. Par exemple, je prends juste un exemple. En Inde, on voit à quel point les classes populaires hindoues et les classes populaires musulmanes votent, en fait, pour les mêmes partis, qui sont les partis de basse caste, le parti du Congrès, en partie parce que en fait ces partis ont développé une base programmatique en termes d'accès à l'éducation, aux emplois publics, qui fait que au-delà des origines, les uns et les autres se retrouvent un petit peu comme à l'époque du New Deal ou de Roosevelt. Bon, les politiques de grands travaux ou d'assurance chômage, finalement, que les ouvriers, qu'ils soient noirs ou blancs, se retrouvaient dans cette plateforme. Et donc finalement, ça permettait que ce que ces personnes avaient en commun était finalement plus important que leurs différences. Donc ça, c'est la construction politique de ces coalitions qui est vraiment au cœur de ce livre.
Et voilà, cette
diversité
décor
de cas est très, très intéressante.
Et c'est fascinant d'ailleurs de voir effectivement comment des religieux ou hindous minoritaires musulmans en Inde, par exemple, se retrouvent justement pour voter pour
les mêmes
partis.
Ce qui n'est pas du tout le cas en Europe et aux États-Unis.
Alors, Gilles Finkelstein, puis Natacha Polony, beaucoup de questions et le temps court, le temps file vite.
Alors, votre somme nous en apprend beaucoup sur ceux qui sont les mieux dotés, ceux que vous venez d'évoquer, sur l'évolution de leur vote. Hein, en gros, que les plus diplômés votent davantage à gauche qu'avant et que les plus riches continuent à voter largement à droite. Et ce qui est intéressant, c'est moins cette constatation que l'on avait déjà faite, mais c'est de pouvoir l'étendre sur le grand champ géographique que vous avez couvert. En revanche, je trouve que le mystère reste assez largement entier sur ce qui est une question qui nous mobilise tous, qui est de savoir comment faire en sorte que les plus modestes, les ouvriers, les employés, reviennent à un vote républicain et, si possible, à un vote à gauche pour ceux qui sont à gauche. Et ça pose au moins une première question qui est sur votre champ le plus direct de compétences, qui est la question sociale. C'est quel est pour vous le discours social qui peut à nouveau rencontrer l'écho des milieux populaires? Je vous dis ça parce que je suis frappé dans l'enquête que la Fondation Jaurès fait avec le CVPOF chaque année sur les fractures françaises, que les milieux populaires sont plus que les autres sensibles aux questions de redistribution, considèrent plus que les autres que la société est injuste. Mais dans le même temps, ils considèrent aussi plus que les autres, 64% des ouvriers, que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le souhaitaient. Ils considèrent plus que les autres que l'on vit dans une société dans laquelle il y a trop d'assistanat, 66%. Ça veut dire, et vous le notez dans votre livre, qu'il y a une interaction entre la question sociale et ce qu'on appelle aux États-Unis la question raciale. Ça se pose dans des termes un peu différents, mais c'est un peu la même idée chez nous. Donc, quel est le discours social pour ramener les ouvriers, les employés, les milieux populaires, pour les sortir, en gros, de l'extrême droite?
Thomas Piketty.
Les sortir de l'abstention aussi, hein, parce qu'il faut pas, il faut pas oublier que ce qui est très frappant, et on le montre pour les pays pour lesquels on peut le faire, alors malheureusement les données ne permettent pas de le faire d'une façon comparable pour l'ensemble des pays, mais pour ceux pour lesquels on peut le faire, on montre que l'abstention a chuté énormément sur les classes populaires, ce qui montre qu'il n'y a pas non plus d'enthousiasme pour l'extrême droite ou pour les partis anti-immigration, sinon on aurait des participations incroyables.
Non, mais que les ouvriers se soient détournés des partis sociaux-démocrates,
oui,
ça c'est un constat qu'on
se retrouve. Oui, mais souvent pour aller en fait encore plus massivement vers l'abstention que les partis assemblés. Je crois que c'est quand même important de le rappeler. Je pense qu'il y a un sentiment d'abandon par rapport aux partis sociaux-démocrates au sens large, qui s'appuie en partie sur une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des politiques de redistribution qui étaient mises au centre de l'action publique entre 1950-1980, qui ont été en partie abandonnées. Alors, il y a une conjoncture géopolitique, politique mondiale depuis la chute de l'Union soviétique, etc. Mais ça a amené en partie des partis sociaux-démocrates et notamment en Europe et en France, à aller très très loin dans la mise en place, pour dire vite, d'un système économique international qui empêche d'une certaine façon le changement et la redistribution. Et je crois que ce côté quasiment censitaire, je pèse mes mots, du système d'intégration économique internationale et notamment européenne qu'on a mis en place, c'est-à-dire dans lequel en fait toute forme de redistribution est dans un certain nombre de cas en fait interdite par les règles qu'on a fixées et dont il va falloir sortir. C'est-à-dire, très concrètement, on a créé un droit quasi sacré de pouvoir s'enrichir en utilisant les infrastructures d'un pays, le système éducatif d'un pays, et ensuite vous cliquez sur un bouton, vous transférez vos actifs dans une autre juridiction, y compris toute voisine, et rien n'a été prévu pour retrouver la trace des personnes en question. Et là, alors là, on essaye maintenant de pédaler, de faire du rétro-pédalage en arrière, sauf qu'en fait, les discussions qu'on a, même encore aujourd'hui au niveau de l'OCDE, la vérité, c'est que ce qu'on a écrit, qu'on a gravé dans le marbre des traités, et en particulier des traités européens et du traité de Maastricht en 92, en fait, font que rien n'a été prévu. C'est-à-dire qu'on a une espèce de sacralisation de la libre circulation des capitaux sans contrepartie en termes d'objectifs sociaux de redistribution. Donc là, il y a quand même une réalité qui, je pense, fait partie de ce qui nourrit un sentiment d'abandon et aussi, dans certains cas, aussi, qui peut nourrir aussi après des réflexes autoritaires où en fait chacun, c'est-à-dire si chacun finit par internaliser aussi l'idée qu'une politique de redistribution est impossible. Vous voyez, si on n'arrive pas à mettre à contribution les multinationales, les milliardaires, parce qu'on nous a expliqué depuis des dizaines d'années que c'était interdit par les règles, que c'était impossible, bon, bah, après, on va parfois avoir tendance à se défouler sur d'autres groupes en disant, bon, bah, voilà, on va se faire moins mal en tapant sur des plus fragiles, qu'en tapant sur des acteurs économiques puissants dont, de toute façon, on nous a dit qu'il était impossible de remettre en cause quoi que ce soit.
Natacha Polony.
Alors, oui, la question, c'est peut-être de savoir, en effet, si véritablement ce vote protestataire ou cette abstention des classes populaires correspond aux besoins de taper, comme vous venez de le dire, sur encore plus faible. Ou si finalement ce qui se joue, c'est pas ce qu'on a vu lors du Brexit, l'idée de « take back control ». Vous avez dit fort justement qu'on a inventé
Slogan des brexiteurs.
Voilà, c'est que vous avez dit fort justement que c'est une question démocratique majeure. Notamment en Occident, on a inventé des systèmes de contournement de la démocratie qui rendent impossible la redistribution, ce qui fait que le sujet, ce n'est plus la redistribution, c'est le fait que les partis de gouvernement de droite comme de gauche ont associer toutes les, enfin, la libre circulation, celle des capitaux, celle des hommes, celle des marchandises, celle des services. Justement, est-ce que ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne ne vous semble pas, de ce point de vue-là, assez intéressant? On voit un leader qui est un leader qui vient d'un parti de droite, qui se référait à Margaret Thatcher, donc à la fois la dérégulation, l'absence de redistribution totale, et là, on voit une hausse du SMIC de 6,2%, un programme de 34 milliards sur 4 ans pour le service de santé, des nationalisations, un programme d'infrastructure, et même le projet, alors on ne sait pas si ça ira au bout, hein, mais de révolution industrielle verte. Est-ce que
alors, laissez
ça,
Thomas Piketty,
ce serait une recomposition?
Alors, vous avez complètement raison. Déjà, c'est très intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni, mais je pense qu'il ne faut pas trop idéaliser quand même trop vite stratégie de Boris Johnson.
Hein, c'était un peu... d'accord.
Pour répondre de façon générale, et je vais revenir à Boris Johnson dans une seconde. Moi, je plaide pour un souverainisme de type universaliste, c'est-à-dire un souverainisme qui s'appuie, qui fasse que les États décident unilatéralement, par exemple, d'aller imposer les multinationales qui sont basées en Irlande sans demander l'avis de l'Irlande et d'avoir l'unanimité. Donc qui assume des décisions unilatérales, mais universaliste, c'est-à-dire au service de critères de justice sociale, fiscale, qui soient opposables aux autres, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas mon pays contre les autres, mes productions, mes secteurs d'activité contre les autres, c'est-à-dire qu'ils traitent tous les secteurs d'activité de la même façon, par exemple, qu'ils proposent des règles qui puissent être adoptées par les autres. Donc c'est ça que je veux dire par là. Alors est-ce que Boris Johnson va dans cette direction-là? Vous avez raison, Natacha, il se passe des choses intéressantes. C'est-à-dire que comme ils ont récupéré, par le biais du Brexit, des électorats populaires qui avaient absolument jamais voté conservateur avant, maintenant, ils se retrouvent à se dire, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour eux qui continuent de voter pour nous? Et donc, ça peut les amener sur certaines politiques. Je pense, par exemple, au rail, réinvestir dans le rail, alors que Thatcher avait voulu absolument tout bazarder. Mais là, il faut pas non plus être trop naïf.
Le déclin du vote de classe.
Attendez, mais il faut pas être trop naïf quand même sur le cas du Royaume-Uni. C'est-à-dire, il faut pas oublier que le Brexit, Natacha, il a été financé en grande partie par des financiers, des hedge funds, etc., qui, contrairement à la finance classique, qui, elle, voulait rester dans l'Union européenne, toute la finance un peu new age du type hedge fund, elle a complètement financé le Brexit dans l'espoir d'un projet de type Singapour sur Tamise, qui continue fondamentalement d'être le projet des conservateurs, d'une bonne partie des conservateurs. Donc c'est là que, quand je parle souverainiste universaliste au service d'objectifs de justice, il faut être très précis, en particulier sur la question de la redistribution, de la progressivité fiscale, de l'impôt sur les milliardaires. C'est là quand on commence à mettre des choses sur les mots et des choses précises, des institutions précises.
Il faut continuer
précises,
à faire fabriquer ces
là,
t-shirts.
Là, on se rend compte que les différentes formes de souverainisme ne sont pas du tout équivalentes. Hein. Et donc moi, je pense que c'est ce débat qu'on doit avoir.
Si on continue de mettre des choses sur les mots et si on essaye d'aller aussi loin que possible sur ce mystère ou cet enjeu du vote des milieux populaires. On a parlé de la question sociale. Par rapport à la réponse que vous avez faite, en gros, il faut moins de libre circulation des capitaux et plus de taxation des plus riches, objectif auquel on peut souscrire. Je pense que pour les milieux populaires, le cran d'après, si on veut vraiment réussir à les convaincre, c'est quel est le bénéfice que eux-mêmes vont en tirer et que là, il n'y a rien d'évident. Mais ma question porte sur l'autre dimension, sur que vous pointez à de nombreuses reprises dans ce livre, qui est les questions d'immigration, les questions d'identité au sens large et leur importance croissante dans le vote. Quand on pense une nouvelle fois au milieu populaire, ce qui est extrêmement frappant, c'est que beaucoup plus que les autres, je regardais les résultats du panel électoral qu'on publie avec le Civipof, la dernière vague qui date du mois d'avril dernier. 61% des ouvriers considèrent que sont d'accord avec l'idée qu'il n'est pas possible d'accueillir davantage d'immigrés. 20% seulement disent que la France a le devoir d'accueillir les migrants qui fuient la guerre, c'est-à-dire l'idée du droit d'asile. Bon, dans cette situation-là, quel est pour vous, s'il y a cet objectif de récupération, d'attraction des milieux populaires, c'est quoi le discours envers ces catégories? Et vous dites qu'il faut un discours internationaliste égalitaire. Est-ce que c'est compatible avec cet objectif de reconquête ?
Thomas Piketty, réponse courte, car il y en a beaucoup encore de questions à vous poser.
D'abord, vous dites à quoi ça sert pour les classes populaires de mettre à contribution les multinationales et les milliardaires ? La première réponse, c'est assez simple, c'est d'arrêter de tout le temps se tourner sur eux quand il s'agit d'augmenter les impôts. C'est-à-dire que le résultat, mais c'est assez simple, c'est-à-dire que vous voyez, les gilets jaunes, c'est quoi ? C'est d'abord une révolte fiscale face à une augmentation de taxes carbone dont on prétendait qu'elle était au service du climat, sauf que la même année où on faisait payer 5 milliards d'euros de plus de taxes carbone, il y avait 5 milliards d'euros qui sortaient pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Et à un moment, les gens se sont dit, mais attendez, vous nous prenez quand même vraiment, vraiment pour des imbéciles. Donc, si vous voulez, si on veut faire quelque chose sur le climat, il faut commencer par aider tous ceux qui ont des petits niveaux de revenus, de niveau de vie, et mettre beaucoup plus fortement à contribution ceux qui prennent leur jet, ceux qui prennent leur yacht, etc. Donc, à quoi ça sert ? Vous me posiez la question.
Oui, mais il faut le dire.
Oui, il faut le dire. Oui, je suis d'accord, il faut le dire. Mais c'est d'abord ça. Après, sur la question de l'immigration, puis plus généralement du post-colonialisme. Moi, j'essaye de regarder les choses, vous savez, de façon positive. C'est-à-dire que pendant des décennies et pendant des siècles, les personnes issues de différentes origines, de continentales, de différentes religions, n'avaient aucun contact entre elles, autre que par l'intermédiaire de dominations coloniales, militaires, etc. Bon, depuis quelques décennies, ces personnes, aux États-Unis, en Europe, vivent dans des mêmes communautés politiques, organisées en principe sur le principe de l'égalité, du droit de vote. C'est un progrès civilisationnel considérable. Alors après, on continue d'avoir des préjugés qui peuvent être forts, des exploitations politiques qui peuvent être forts. Mais la chose que je laisserai pas dire, si vous voulez, le racisme n'est pas quelque chose de plus naturel chez les classes populaires ou chez les classes privilégiées. Tout dépend, si vous voulez, des politiques d'accueil social qui sont mises en place. Pour moi, un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est de mettre sur le même plan la question de la lutte contre les discriminations raciales et les discriminations sociales. C'est-à-dire, si vous voulez, l'accès, par exemple, à des filières éducatives qui soient bien financées, c'est un enjeu. Il y a des questions de discrimination face à des personnes issues de milieux populaires de toutes sortes d'origines. C'est-à-dire que de façon générale, à nouveau, il faut relier la question sociale, la question de la lutte contre les discriminations, d'une façon pratique, en revenant à des enjeux qui soient pas juste des postures rhétoriques des uns et des autres qui énervent tout le monde, mais qui soient des enjeux pratiques pour avoir des offres d'emploi. C'est ça la question. Et moi, ce qui me désole dans tous ces débats, c'est qu'on n'a toujours pas en France, par exemple, d'observatoire public des discriminations qui, chaque année, mesure d'une façon fiable l'évolution de l'accès à l'emploi, quelle est la probabilité d'avoir un entretien d'embauche quand votre nom
n'a pas la bonne consonance. Et des parcours de discrimination, c'est l'un de vos combats.
Si vous voulez, on n'a toujours pas d'observatoire qui pose ça annuellement et qui permette surtout d'adapter les politiques pour aller dans la bonne direction. Et si on avait un débat un peu plus pratico-pratique sur ce genre d'institution, ce genre de mesures, et sortir des grands débats théoriques où chacun se complaît à insulter les autres et finalement on ne résout rien et on ne fait rien pour lutter, en l'occurrence, contre les discriminations, je pense qu'on s'en porterait mieux.
Natacha ?
Est-ce que on ne pourrait pas se référer aussi, par exemple, aux avertissements que George Orwell adressait à l'ensemble des leaders des partis socialistes, communistes, en leur disant « vous n'arrivez pas à parler aux classes populaires parce que vous oubliez que ces classes populaires ont souvent à cœur la perpétuation d'un mode de vie ». En gros, elles sont conservatrices, pour employer un mot valise, il faudrait affiner un petit peu plus. C'est que donc, elles ont à cœur une forme d'enracinement au sens de Simone Veil employait ce terme. Et qu'à côté de ça, on a, disons, une dérive des démocraties autour de la méritocratie. C'est-à-dire que le projet était de dire, on renouvelle les classes dominantes, on renouvelle les élites, sauf que on ne les renouvelle plus à cause du blocage des systèmes scolaires, mais les diplômés sont incités, eux, à considérer qu'ils méritent la place qui est la leur dans la société. Or, ils sont acquis, justement, à cette idée d'un progressisme. Est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui se noue, une incompréhension majeure ?
Je pense que vous avez en partie raison. Il y a un livre formidable que je cite souvent, qui est le livre de Michael Young, sociologue britannique, qui publie en 1958 un livre qui s'appelle The Rise of the Meritocracy. C'est la première fois qu'on emploie la méritocratie. Pour lui, c'est très négatif. En fait, c'est très intéressant. Il est proche des travaillistes dans l'après-guerre qui mettent en place le National Health Service, qui est un parti très populaire, le parti travailliste en 1945-1950. Mais Michael Young s'inquiète pour les raisons éducatives. C'est-à-dire, il dit attention, attention, petit à petit, vous allez devenir un parti de diplômés et vous allez vous mettre, en gros, à mépriser les classes populaires. Et si vous n'avez pas une réforme radicale du système éducatif très stratifié au Royaume-Uni et qui est resté, en fait, très stratifié, vous allez avoir cette évolution. Alors, c'est un livre d'anticipation qui se termine en 2020 ou en 2025 dans des émeutes sanglantes où, d'ailleurs, le sociologue qui raconte l'histoire finit lui-même égorgé par des manifestants dans une crise populiste.
Merci. Alors, pour le spoiler.
Désolé pour le spoiler. Mais quand même, Natacha, le point sur lequel que je mentionnais, ce besoin d'encastrement, ce besoin de territoire, il est très important, mais il faut pas non plus naturaliser les classes populaires par rapport aux classes dominantes. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans les enquêtes que j'utilise sur les années 50 ou 60, à cette époque-là, vous avez par exemple des questions dans mes enquêtes post-électorales sur l'empire colonial. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance, tout simplement? Alors, c'est des questions qui paraissent bizarres, mais est-ce que vous pensez que l'Afrique noire devrait être indépendante, quoi? Enquête de 1958-1962. Comment organiser les relations avec les peuples africains? Eh ben, en fait, vous voyez qu'à cette époque-là, le racisme, entre guillemets, il est plutôt du côté des classes bourgeoises que des classes populaires qui veulent l'indépendance. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une politisation, évidemment, autour, à l'époque, du mouvement communiste, du mouvement socialiste international, qui veut à la fois améliorer, voilà, le sort des classes populaires et qui est aussi pour l'indépendance. Donc, ce que je veux dire, c'est que le racisme, l'internationalisme, le besoin d'encastrement, il n'est pas spontanément populaire ou bourgeois. Il est ce qu'on en fait dans des mobilisations politiques concrètes, là où vous avez raison, hein, des mobilisations qui parlent dans la vie des gens, c'est-à-dire dans l'emploi, le salaire, l'école de leurs enfants, enfin, des enjeux socio-économiques plus que des enjeux matériels. Identitaires.
Gilles.
Alors, je partage ce que vous dites, Thomas. J'ai mille et une questions à vous poser, mais essayons de creuser, d'aller jusqu'au bout alors de cette question sur les milieux populaires.
En trois minutes. C'est le défi de la radio.
La réponse que vous avez donnée, elle portait, si je parle en termes économiques, sur le stock, c'est-à-dire sur les étrangers qui sont ici. Hein, quand vous dites qu'il faut lutter, ou étrangers, ou qui ne sont plus nécessairement étrangers, disons les immigrés.
Hein,
c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités, et le lien entre les deux, la nécessité d'avoir plus de connaissances, 100% d'accord. Ma question porte sur ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire sur les flux. Ma question est donc, être un internationaliste égalitaire, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des politiques migratoires qui soient plus souples, plus accueillantes, plus ouvertes que celles qu'on a? Est-ce qu'il faut garder celles qu'on a et les appliquer? Est-ce qu'il faut, au contraire, les durcir?
Thomas Piketty.
Alors, je vais vous faire une réponse à nouveau que vous allez peut-être trouver trop économique, mais je veux quand même insister. C'est que si vous regardez la matérialité des flux migratoires entrant en Europe avant la crise de 2008, vous vous rendez compte que vous aviez des flux qui étaient 2 à 3 fois plus importants qu'aujourd'hui. Le chômage baissait, le Front National baissait. Je dirais pas tout allait bien, mais disons, par rapport à ce qui s'est passé depuis le début des années 2010, vous aviez à la fois des flux migratoires beaucoup plus importants, c'était 2 millions de personnes qui rentraient dans l'Union européenne chaque année, en net, enfin net des sorties, mais en même temps sur 500 millions de population de l'Union européenne, c'était gérable. Le flux a été divisé par deux depuis le début des années 2010 à la suite de la crise financière de 2008, en dépit du fait que le contexte géopolitique aurait plutôt demandé une ouverture accrue avec la crise notamment en Syrie. Mais c'est d'abord la crise économique, la remontée du chômage et les politiques lamentables qui ont été menées, notamment en Europe, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que l'austérité du début des années 2010, en 2011, 2012, 2013, où on a recréé une nouvelle récession en Europe, alors que les États-Unis, eux, continuaient de redémarrer parce qu'on a voulu réduire à marche forcée les déficits, là, il y a quand même eu une erreur historique. Et aujourd'hui, pour se tourner vers l'avenir, moi, je m'inquiète que là, à la sortie de la pandémie, on soit à nouveau beaucoup plus frileux qu'on devrait en Europe pour tout ce qui concerne la relance économique qui s'annonce à nouveau beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est ça le vrai enjeu, parce que dans une économie qui s'étend, qui crée des emplois, qui investit, on se rendrait beaucoup mieux compte parfois que des flux migratoires qui sont après montés en épingle par des mouvements xénophobes en mettant des grandes photos avec des flux de réfugiés, etc. En fait, à l'échelle d'une économie comme l'Union européenne, les choses pourrait être à la fois plus ouverte et que ça se passe beaucoup mieux sur le front de l'emploi.
Mais est-ce que ce ne sont pas finalement en bout de ligne les citoyens qui sont responsables de leurs choix ? Vous faites porter l'accusation l'économie, sur les partis, mais à la fin des fins, c'est quand même
on se retrouve
dans le secret de l'isoloir.
On est tous co-responsables. Moi, j'essaye simplement d'insister sur le fait que les clivages de type classiste, disons basés sur la classe sociale, au moins ils sont solubles, disons, dans la démocratie, dans les solutions. C'est-à-dire, il faut trouver après le juste milieu en termes de redistribution. Hein, les classes populaires n'ont pas toujours raison, les classes bourgeoises n'ont pas toujours tort, mais au moins il y a du grain à moudre. Alors que quand on a un clivage qui se fait sur une base identitaire, comme ça se fait aux États-Unis, blanc et noir, et malheureusement ça se fait de plus en plus en France et en Europe, là, qu'est-ce que vous pouvez avoir juste un camp qui terrasse l'autre. Alors évidemment, c'est facile quand on est le camp majoritaire, mais tout ça ne résout pas aucun problème, ni sur la sécurité, ni sur la discrimination, ni sur l'emploi, ni sur quoi que ce soit.
L'émission se termine. Merci Thomas Piketty. C'était passionnant. Il y a cette phrase que vous citez. La classe sociale n'est pas morte. Elle a été enterrée vivante. C'est à méditer. Clivage politique et inégalité sociale. Étude de 50 démocraties est publiée aux éditions de l'EHESS, de Gallimard et du Seuil. Merci Natacha et Gilles et à toute l'équipe du Grand Face à Face. Et à très bientôt sur l'antenne d'Inter, Thomas. Il est bientôt 13h. Bientôt le journal.